Chapitre 28. De même qu'on peut identifier les oiseaux grâce à leur chant, il est possible de classer les araignées en fonction de la façon dont elles tuent. Tiré de l'article Spider Woman, Burkhard Bilger, New Yorker, 5 mars 2007. On rencontre deux sortes d'araignées venimeuses aux États-Unis. Expliquait Carrie Crawford Hale, arachnologue au ministère de l'Agriculture. D'abord, la Latrodectus mactans, ou veuve noire, connue pour les taches rouges vives de son abdomen. Seules les femelles mordent, en général uniquement si on les asticote. La deuxième araignée venimeuse est la Loxosceles reclusa, ou araignée violoniste, connue pour la tache en forme de violon sur son dos. Mâles et femelles sont aussi dangereux l'un que l'autre. Heureusement, ce sont des araignées sédentaires et très craintives qui préfèrent rester cachées derrière des tas de bois plutôt que de frayer avec les humains. Malgré cela, on signale au moins une douzaine de morsures par an, parfois avec des conséquences sérieuses. Sérieuses comment ? Demanda Sal. Debout près de la porte, il se tenait aussi loin que possible de Crawford Hale et de son microscope. À sa droite, un scorpion naturalisé, une sorte d'énorme scarabée noir dont les immenses pinces lui arrivaient juste au-dessus de la tête. L'agent spécial du GBI semblait fatigué, défait et au comble de l'anxiété. Kimberly, de son côté, essayait de déterminer s'il serait convenable de demander à regarder dans le microscope. Elle n'avait jamais vu de mue d'araignée grossie 10 fois. À en croire Harold, c'était assez chouette. Malheureusement, le bureau de Crawford Hale, qui faisait à peu près la taille d'un placard à balai, était déjà plein à craquer de matériel, de meubles de rangement et de spécimens en bocaux ou naturalisés. Harold et la famille de Kimberly avaient dû attendre dehors. Dommage parce que Quincy aurait sûrement aimé entendre ce que l'arachnologue avait à dire. Le venin de la Loxosceles reclusa contient une enzyme qui nécrose les chairs de la victime. Crawford Hale régla le microscope et passa de droite à gauche. Pour se protéger du venin, le corps bouche les artères autour de la morsure. Privée de sang, la peau meurt, noircit et se détache. J'ai vu des photos de plaies ouvertes qui vont de quelques millimètres à quelques centimètres. Dans certains cas, c'est une réaction bénigne qui disparaît en quelques semaines. Dans d'autres, il arrive qu'un membre tout entier enfle et mette des mois, voire une année, à guérir complètement. Les différences semblent s'expliquer par la réaction du système immunitaire de la victime, plus que par la toxicité de l'araignée elle-même. Concrètement, certaines personnes sont plus sensibles que d'autres. Sal semblait horrifié. Il avait déjà mangé ce matin, à en juger par la tache de ketchup qui ornait son revers gris souris et la pénétrante odeur de pommes de terre sautées qui émanait de son costume. Mais en cet instant, le petit déjeuner n'avait pas l'air de vouloir passer. Il s'éloigna encore un peu de Crawford Hale en secouant les bras comme s'il sentait quelque chose courir sur sa peau. Comment on connaît sa sensibilité ?
À la première morsure, on sait, répondit Crawford Hale en se redressant devant le microscope.
Je suis sûre à 90% qu'il s'agit d'une Loxosceles reclusa. On distingue encore l'ombre du violon renversé sur sa carapace. Et puis il y a la couleur marron clair, le corps fin, presque délicat. L'élément de diagnostic le plus décisif, ce serait les yeux. Les araignées violonistes en possèdent 3 paires, disposées en demi-cercle, alors que la plupart des araignées ont 8 yeux. Je ne distingue pas autant de détails sur cette mue, mais je suis quand même relativement certaine que c'en est une.
L'araignée violoniste est commune en Géorgie, non ? Demanda Kimberly, contrariée.
Oui, absolument. Les États du Sud, Kansas, Missouri, Oklahoma, en sont envahis. Il y a 3 mois, j'ai eu le cas d'une famille qui signalait une infestation. J'ai recueilli 300 spécimens en 3 heures. Il faut noter qu'aucun membre de la famille n'avait jamais été mordu. Les araignées ne tiennent pas tant que ça à s'attaquer à des créatures qui peuvent les écraser du bout du pied. Et puis il y a évidemment le sud de la Californie qui est aux prises avec la Loxosceles laeta, une variété originaire du Chili, du Pérou et de l'Argentine.
Si le venin de la réclusa est une tasse de thé, celui de la laeta est un double expresso.
Encore une bonne raison de ne pas vivre en Californie, murmura Sal.
Il venait enfin de remarquer le scorpion naturalisé à côté de lui. Il voulut lui tourner le dos, mais se retrouva nez à nez avec un autre spécimen, une blatte d'une taille vraiment invraisemblable.
« Je ne comprends pas, » demandait encore Kimberly.
« Pourquoi un passionné collectionnerait-il un spécimen aussi courant que l'araignée violoniste, d'autant qu'elle est venimeuse et donc difficile à garder ?»«
Oh, je ne dirais pas qu'elles sont difficiles à garder, » corrigea aussitôt Crawford Hare.
Elles font partie des seules espèces qu'on peut faire cohabiter en grand nombre. Et elles n'ont aucun instinct agressif entre elles. Donnez-leur un terrarium, avec plein de recoins sombres où se cacher, des feuilles, des pierres, des écorces. Balancez-y quelques criquets chaque semaine, et elles seront sans doute très contentes de leur sort.
Donc, les passionnés les collectionnent vraiment ?
L'arachnologue considéra la question.
Vous avez déjà entendu parler de la ferme aux araignées ?
Non.
C'est un centre en Arizona où on élève des araignées pour récolter leur venin.
Pour faire quoi ?
L'interrompit Sal, l'air à nouveau horrifié.
Pour récolter leur venin.
Songez à ça. Le venin d'une seule araignée peut contenir près de 200 composants, y compris des substances capables de dissoudre les chairs et de court-circuiter le système nerveux.
Est-ce que ce ne serait pas génial de pouvoir analyser et reproduire certains de ces composants pour l'industrie pharmaceutique ? C'est de la recherche de pointe.
Ils récoltent le venin ? Redemanda Sal.
Ils ont une machine spéciale, expliqua Crawford Hare avec une mine réjouie. Je n'ai pas eu l'occasion de le faire moi-même, mais apparemment, ils se servent de pinces reliées à un stimulateur électrique. On envoie une très faible décharge électrique à l'araignée, ce qui provoque la contraction de sa glande à venin. Une gouttelette se forme sur son crochet pour être récupérée dans un tube à essai. Ça ne fait pas de mal à l'araignée, mais ça produit beaucoup de venin pour la recherche. Alors, dans un endroit comme cette ferme aux araignées, croyez-moi, ils collectent, élèvent et conservent beaucoup de l'Oxocelles reclusa.
Et un passionné plus lambda ? Demanda Kimberly.
Nous pensons que l'individu recherché possède plusieurs spécimens de mygales et au moins une veuve noire.
Crawford Hare haussa les épaules.
Franchement, un collectionneur reste un collectionneur. J'ai fait mes études avec un type qui avait trouvé une veuve noire dans la résidence universitaire et qu'il avait attrapée pour en faire un animal de compagnie. Ensuite, pour la nourrir, il s'était mis à élever des criquets. Et avant qu'il ait eu le temps de dire ouf, la veuve noire était morte et il s'était retrouvé à la tête de 200 criquets. Alors maintenant, il en élève pour différentes animaleries. Bon, vous et moi ne ferions peut-être pas une chose pareille, mais pour lui, ça marche.
Comment un collectionneur se procurerait-il une araignée violoniste ?
Insista Kimberly. Est-ce que c'est un spécimen qu'il achèterait sur Internet, comme les mygales, ou peut-être sur un marché spécialisé ?
Dans la région ? S'étonna l'arachnologue.
Bah, il n'aurait probablement qu'à descendre dans sa cave, ou aller à son tas de bois, ou soulever des pierres pendant une randonnée en forêt.
Une randonnée ?
Bien sûr, les araignées violonistes vivent dehors toute l'année en Géorgie.
Dans la forêt nationale de Chattahoochee, par exemple ?
Je suis sûre qu'on peut en trouver là-bas.
Kimberly soupira, se mordilla la lèvre. Puis elle se tourna vers Sal.
Donc la mue d'araignée n'a peut-être rien à voir avec sa collection. C'est peut-être un débris quelconque qui s'est collé à sa chaussure pendant qu'il marchait en forêt.
Il a pu attraper cette mue pendant une randonnée dans les bois, confirma Crawford Hare, avant d'ajouter d'un air pensif. Cela dit, les araignées violonistes sont notoirement craintives. Elles se réfugient la plupart du temps dans des recoins sombres et cachés, à plus forte raison pendant la mue, qui est une période de stress intense pour une araignée. Il y a des chances que votre suspect ne soit pas tombé sur cette mue en suivant un sentier tracé. Il marchait beaucoup plus probablement à travers bois, dans un endroit isolé, peu fréquenté.
Un endroit où cacher un corps, marmonna Kimberly.
Ah, ça c'est votre rayon, pas le mien.
répondit l'arachnologue. Autre chose que je peux faire pour vous ? Kimberly réfléchit. La conversation n'avait pas été aussi éclairante qu'elle l'avait espéré. À en juger par la tête que faisait Sal, il était du même avis. Ne voyant pas d'autres questions à poser, elle tendit la main en remerciant Crawford Hall du temps qu'elle leur avait accordé. Sal en fit autant. Si jamais on rencontre une araignée violoniste bien vivante, demanda-t-il avant de partir, comment faut-il réagir ? Faire la statue ? Bon sang, demanda Sal en secouant la tête. Comment vous faites pour étudier des insectes à 8 pattes chaque jour que Dieu fait ? Moi, j'aurais la chair de poule en permanence. Oh, les araignées ne sont pas des insectes, le reprit Crawford Hall. Les insectes ont 6 pattes, les araignées 8. Les araignées mangent les insectes, c'est très différent. Pas pour Sal. Je n'aime pas les araignées, conclut-il sur un ton catégorique lorsque Kimberly et lui, quittant le bureau, remontèrent le couloir du sous-sol, inondés de lumière par les lampes fluorescentes bourdonnantes. Regarde le bon côté des choses. Au moins, elles sont plus petites que les serpents à sonnette. Des serpents à sonnette. Qu'est-ce que tu foutais avec des serpents à sonnette ? Je jouais à la marelle. Et crois-moi, ça ne marchait pas. Ils arrivèrent au bout du couloir, gravirent les escaliers et poussèrent finalement la porte vitrée pour émerger sous le soleil aveuglant. Harold, Quincy et Rainey attendaient patiemment sur le parking. Harold, silhouette dégingandée, assis jambes croisées sur le capot de la voiture de Kimberly, Quincy et Rainey debout à ses côtés. « Bonne nouvelle ?» demanda Harold plein d'espoir. « La mue appartient à une araignée violoniste, » expliqua Kimberly, dépitée. « Dans la région, c'est à peu près comme de trouver une coccinelle. Yukaidi, Yukaida !» Son père haussa un sourcil. « C'est un terme technique, » lui assura-t-elle. « Et qu'est-ce que tu vas faire ?»« Toujours aucune nouvelle de Ginny Jones ?» demanda-t-elle en se tournant vers Sal. « Aucune, » répondit-il après avoir vérifié qu'il n'avait pas de message sur son portable. Kimberly s'était rendue tout droit à l'adresse de Ginny après le coup de fil de Sal. Elle était tombée d'accord avec ses premières constatations. Aucun signe d'effraction, aucune trace de lutte. Le petit appartement semblait avoir été sommairement vidé à la hâte. Des marques dans la poussière signalaient l'ancien emplacement des objets de valeur, tout le reste ayant été abandonné. Dans la chambre, à moitié cachée sous le lit, Kimberly avait trouvé un exemplaire du guide « Bien vivre sa grossesse ». Encore un petit détail qui la torturerait au milieu de la nuit. Un avis de recherche avait été lancé pour Ginny et sa voiture, et des photos d'elle et de Dean et Cara circulaient parmi les policiers en tenue. 8 heures plus tard, ils attendaient encore. « Et toujours pas de cellule d'enquête !» soupira Kimberly avant d'ajouter avec dérision. « Mais mon supérieur nous encourage à nous rapprocher d'Alpharetta au sujet du meurtre de Tommy Mark Evans. »« Tu as parlé avec le responsable d'enquête ?» demanda Quincy. « Pas encore. J'ai été un peu occupée au cas où tu n'aurais pas remarqué. »« Ce serait intéressant de savoir s'ils ont retrouvé des empreintes de chaussures sur la scène de crime. »« Ce serait le jackpot !» reconnut Kimberly. Et en attendant, insista son père. Kimberly haussa les épaules, regarda à nouveau Sal, son costume froissé et son visage cireux où se lisait le manque de sommeil. S'il retrouvait ce tueur, cela lui permettrait-il enfin de se pardonner d'être resté impuissant pendant que son père battait sa mère ? Et si elle l'aidait ? Lui deviendrait-il plus facile d'aller à Arlington, déposer des fleurs sur la tombe de sa mère et de sa sœur ? Ils poursuivaient tous les deux une chimère. Et même en le sachant, ils étaient incapables d'arrêter. « Nous avons une autre piste, » dit-elle. « Laquelle ? » ?»« L'or sous la chaussure de Dean et Cara. D'après Harold, il provient sans doute des environs de Dahlonega. On pourrait faire un petit voyage d'études là-bas. » Diffuser notre portrait robot de Dinekara. Si c'est un passionné de randonnée qui passe beaucoup de temps dans la région, Peut-être que quelqu'un le reconnaîtra. Sal s'anima immédiatement. C'est parti. Et le père de Kimberly d'ajouter avec flegme « Nous venons avec vous, naturellement. » Chapitre 29. À l'intérieur, ces araignées se rencontrent fréquemment dans les maisons et dépendances, chaufferies, écoles, églises, commerces, hôtels et autres bâtiments comparables. Tiré de Biology of the Brown Recluse Spider, Julie Maxenheit, William J. Gladney, J. L. Lancaster Jr. and W. H. Whitcomb, Service d'entomologie, Département d'agriculture, Université d'Arkansas, Fayetteville, mai 1966. Dal Onega se trouvait dans la circonscription du shérif de Lumpkin County. Malheureusement, celui-ci s'était absenté une semaine pour un séminaire sur la prévention de la toxicomanie chez les jeunes. À la place, Sal organisa donc une entrevue à 16h avec le shérif Boyd Duffy du comté voisin, Union County. Harold dut s'excuser. Il avait déjà rendez-vous dans l'après-midi avec des banquiers qui l'aidaient à pister des fonds terroristes sur Internet. Sa dernière recommandation ? Allez donc faire un tour à la pisciculture de l'Office national des forêts, près de Sutchies. Ces types savent littéralement tout. Restaient donc Sal, Kimberly, Quincy et Rainey. Dal Onega se trouvant à 1 heure de route au nord, par la GA-400, ils décidèrent de faire l'aller-retour dans la journée. Cela les obligerait à travailler tard, mais ils en avaient vu d'autres. Ils formèrent un petit convoi, Sal et Kimberly dans la voiture de tête, Rainey et Quincy fermant la marche. L'humeur de Sal ne s'était pas améliorée depuis leur rencontre avec l'arachnologue. Il conduisait, son visage basané, figé en une moue perpétuelle, préoccupé par des pensées qu'il n'avait apparemment pas envie de partager. Kimberly passa des appels sur son portable. Elle commença par Mac, mais il ne répondit pas. Elle lui laissa un message en espérant que sa voix ne trahissait pas l'envie qu'elle avait d'en découdre. Elle se demanda s'il fallait tenir son supérieur au courant, mais décida que le mieux était l'ennemi du bien. Personne ne se souciait vraiment de savoir ce qu'elle faisait de son après-midi, du moment qu'elle remplissait la paperasse et faisait avancer les dossiers qu'on lui avait confiés. Ce qu'elle ferait, plus tard dans la soirée, à la première heure demain matin, sans faute. Ensuite, elle essaya de joindre le responsable d'enquête à Alpharetta, Marilyn Watson. Watson décrocha juste au moment où Kimberly perdait le signal. Elle essaya à nouveau, avec des résultats mitigés. Pas d'empreinte latente, sans au sûr, le projectile printe, répondit Watson lorsque Kimberly lui demanda quels indices avaient été recueillis pour le meurtre de Tommy Mark Evans. Pardon, vous avez une empreinte de chaussure ? On a des pneus. Vous avez des empreintes de pneus ? Vous savez quel genre de véhicule ? Encore des parasites, de la friture, puis un silence de mort. Kimberly regarda son portable. Le signal avait disparu. De fait, elle entendit 3 bips et la communication fut coupée. Elle surveilla l'écran digital d'un œil mauvais en attendant de recevoir à nouveau, peine perdue. Elle dit qu'ils ont relevé des empreintes de pneus, finit-elle par expliquer. Je ne sais pas bien pour les traces de chaussures et j'ai cru comprendre qu'ils avaient retrouvé un projectile, ou peut-être pas. Enfin, tu vois le genre de conversation. Quel type de véhicule ? On n'est pas arrivé jusque-là. Mais à supposer qu'ils aient fait un moulage de l'empreinte, on devrait pouvoir l'examiner par nous-mêmes. Si un jour je capte à nouveau, je verrai si elle peut m'envoyer les clichés numériques par Internet. Je connais des gens qui devraient pouvoir nous dire assez vite si le pneu est compatible avec un Toyota 4Runner. Sal se tourna finalement vers elle. Son regard sombre, soucieux, lui envoya un message qui, elle-même se rendait compte, n'était pas sain. « Ça t'arrive de faire autre chose que travailler ?» demanda-t-il. « Jamais. » Se retournant vers la route, il grommela. « Moi non plus. » Elle sourit, mais avec plus de tristesse qu'elle n'en avait eu l'intention. Elle regarda par la fenêtre, vit la jungle de béton de l'agglomération d'Atlanta laisser place à des étendues brunes. Ils arrivèrent à un feu, prirent la direction du nord par la 60 et commencèrent à grimper. Au paysage champêtre succédèrent des ravins impressionnants et des coteaux imposants, le tout envahi de vignes kudzu vertes et denses. Ils passèrent devant des résidences de standing, un parcours de golf impeccable, des fontaines aux formes baroques. Kimberly commença à se faire une idée de la situation. Si la dernière demi-heure avait été faite d'exploitations avicoles indigentes et de villages de mobilhomes, cette région du nord de la Géorgie sentait l'argent. À plein nez. Harold avait raison. Il y avait de l'or dans cette montagne. « Nous sommes censés retrouver le shérif Duffy au Oldie Town Grill, en centre-ville, » dit Sal. « Tu connais l'adresse ?»« Tu n'as jamais été à Dahlonega, hein ?» Elle confirma. « Crois-moi, pas besoin d'adresse. » Elle comprit ce qu'il voulait dire un quart d'heure plus tard, lorsque, après être passé en coup de vent devant un McDonald's et avoir traversé un carrefour, ils entrèrent dans une carte postale illustrant à la perfection l'architecture américaine du XIXe siècle. Des arbres dénudés s'élançaient dans le ciel au milieu d'une charmante place dominée par un tribunal en briques, vieux de 200 ans, qui abritait désormais le musée de l'or de Dahlonega. Des devantures pittoresques arboraient des enseignes, épiceries, cadeaux, antiquités, caramel artisanal. Les touristes déambulaient sur des trottoirs de briques rouges à l'ancienne. « Je crois que nous sommes tombés dans une faille temporelle, » dit Kimberly. « Quelque chose de ce genre. » Sal fit le tour de la place pour lui offrir une petite vue panoramique. Les parterres étaient plantés de gaultéries et parsemés d'objets tels que roues de diligence, abreuvoirs pour cheval ou crânes de bœuf blanchis. C'était comme de visiter un décor de western, sauf qu'elle était encore en Géorgie, un état qu'elle connaissait mieux pour ses étés étouffants et ses pêches fraîches. Fin septembre, début octobre, expliqua Sal, sa grouille de touristes venus voir les couleurs de la forêt. Pas moyen de trouver à se garer. Tu devrais venir voir ça avec ton mari, un de ces quatre. Enfin, si vous aimez ces trucs-là. La voix de Sal s'était tendue. Assez pour inciter Kimberly à répondre. Tu parles, une petite escapade romantique, une jolie chambre d'hôte, la route des vins. Mac adorerait ça. Sal n'ajouta rien, et ce n'était pas dommage. Il trouva une place devant une énorme roue en bois qui, à en croire l'inscription, avait à l'époque servi à broyer le minerai d'or. Ils attendirent que Rainy et Quincy se garent, puis suivirent la petite flèche vers le Oldie Town Grill.